Chapitre 2e. Dès que je me trouvai dehors, je m'aperçus qu'il tombait une pluie glaciale et que je n'avais pas de pardessus. La serge est peut-être plus longue à se mouiller que les autres étoffes, mais une fois qu'elle l'est, elle est aussi plus longue à sécher, pensai-je. Tout le monde avait un pardessus, sauf moi. Ce que je redoutais le plus, attirer l'attention par une anomalie vestimentaire, se produisait donc. Je faillis remonter chez Georget, je ne le fis pas. Mon départ m'avait coûté trop d'efforts pour le remettre en question. Je me dirigeai vers le Luxembourg. Après tout, cette pluie m'assurait une certaine sécurité, car il semblait bien improbable qu'on me recherchât par un temps pareil. J'allai à pied jusqu'à la rue Soufflot. Comme toujours, j'avais manqué d'expérience. Je m'en rendais compte au moment où je me mêlais à la foule. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'en tenir à l'écart, même très peu de temps. Dans ma chambre de la rue de Sèvres, j'avais grossi les dangers à tel point que le seul fait d'aller voir des amis m'avait paru d'une audace extraordinaire. Je n'avais rien voulu prévoir, rien préparé. Écrire, recevoir des lettres, établir des projets, tout cela m'avait paru plein d'embûches, tandis que d'aller comme je le faisais à présent chez un ami sans l'avoir averti, sans qu'il sût même que j'étais à Paris, me paraissait au contraire une garantie de sécurité. Cela comportait néanmoins des désagréments, comme il eût été plus agréable sous cette pluie de me savoir attendu. Si je ne trouvais personne, si à la fin de la journée je n'avais toujours pas d'abri, où me cacherais-je? N'allais-je pas risquer de me faire ramasser bêtement par une patrouille? Enfin, j'arrivai devant la maison de la rue Galussac, où habitait Guéguen avec sa mère. Elle était lugubre et hostile sous la pluie. Bien qu'il fît jour, certaines fenêtres étaient éclairées. J'avais l'impression que les locataires étaient repliés sur eux-mêmes avec leurs soucis de nourriture et de chauffage. Je m'abritai dans une encoignure et je regardais longuement cette maison. Enfin, je m'engageai sous la voûte, mais j'avais à peine fait quelques pas que je m'arrêtai net. Deux hommes parlaient au concierge. Ils me firent peur. Ils avaient visiblement l'attitude de policiers qui viennent prendre des renseignements. Je ressortis immédiatement. Je dus me retenir pour ne pas courir. Je tournai dans la rue des Ursulines. Là, ce fut plus fort que moi. Je ne pus m'empêcher de courir. Enfin, je m'arrêtai. Personne ne m'avait suivi. Je m'abritai sous un store où se trouvaient déjà une femme et un enfant. Cette présence me fit du bien. On pouvait croire que nous étions ensemble, que j'étais un homme bien inoffensif, un père, un mari. Une heure plus tard, je retournai rue Galussac. Les lumières étaient éteintes. Je m'arrêtai devant la porte cochère et, scrutant l'intérieur du couloir, je m'assurai que les deux hommes étaient partis. Je n'étais pourtant pas complètement remis. Il fallait que je parle à la concierge. Je lui dis que j'étais venu tout à l'heure, que je l'avais vu en conversation avec deux messieurs, que je n'avais pas voulu la déranger, que j'en avais profité pour faire une course. Comme elle ne disait pas ce que je voulais savoir, je répétai que je l'avais vue avec deux messieurs, mais en souriant cette fois, en prononçant ces derniers mots de façon à laisser entendre que je me doutais qu'ils étaient. La concierge sourit à son tour. « Oh non, ce n'est pas ce que vous croyez. » Cette réponse me fit une excellente impression. La concierge était donc comme tout le monde. Elle n'aimait pas la police. C'était de bon augure qu'elle ne s'en cachât pas vis-à-vis d'un inconnu. René Guégan était un garçon que j'aimais beaucoup. Je l'avais connu à Montparnasse au temps où je suivais des cours de peinture à l'Académie suédoise. Il habitait déjà cet immeuble lugubre, d'apparence banale, mais dont les quatrième et cinquième étages formaient un appartement avec atelier d'artiste très agréable. Il adorait sa mère, et il était persuadé qu'à cause d'elle, il ne s'était pas marié, ce dont je me permets de douter. Lorsque j'eus longuement raconté mon évasion, sans faire allusion cependant à sa partie dramatique, et en éprouvant déjà une légère difficulté à faire passer mes aventures pour toutes récentes, Guégan me conduisit dans l'atelier. Le soir, quand je fus seul, je me sentis pour la première fois depuis septembre 39, date de mon appel sous les drapeaux, dans une atmosphère de temps de paix. Assis dans un grand fauteuil de velours grenat à côte, je regardais l'atelier qu'une lampe de chevet éclairait faiblement. une odeur familière de térébenthine, qui me semblait un parfum rare, flottait dans l'air. Je me plaisais toujours dans l'atelier. Pour une raison enfantine, je m'y sentais beaucoup plus en sécurité que rue de Sèvres. En cas de nécessité, il était possible de se sauver par les toits. Le seul inconvénient pour moi était d'être beaucoup mieux installé que mes propres hôtes. Le logement qu'ils habitaient à l'étage au-dessous et qu'un escalier intérieur reliait à l'atelier était tout petit. Quoi qu'en dit Guégan, une situation moins privilégiée eût été plus durable. Cette pensée gâtait mon plaisir. Je me consolais en me disant que j'étais dans une situation qui méritait des égards. J'avais brillamment combattu. Le 10 juin, j'avais été proposé pour la croix de guerre et, sans la défaite, je serais décoré à l'heure qu'il est. Ensuite, je m'étais évadé. Guégan était assez sensible à toutes les distinctions officielles pour s'en rendre compte. Si moi, je n'attachais aucune importance à mes titres, lui, il en appréciait la valeur. Je m'enfermais à clé tous les soirs, mais comme je ne voulais pas que mon hôte s'en aperçût, je dormais mal, me réveillant plusieurs fois en sursaut, craignant qu'il ne fît jour, car je voulais ouvrir la porte avant son arrivée. À part ce détail, j'étais beaucoup mieux que rue de Sèvres. Je n'avais plus cette sensation de me trouver au fond d'un cul-de-sac. Très vite, malheureusement, cette sécurité me parut insuffisante. Beaucoup de choses pouvaient être faites, beaucoup de détails mis au point. J'examinais les toits avec attention. Je constatais que ce qui m'avait tant rassuré était en réalité insuffisant. Il était impossible, sans une corde, de passer d'une des fenêtres de l'atelier sur le toit de la maison de 4 étages se trouvant à 5 mètres au-dessous. Avec ce défaut d'appréciation exacte qui caractérise une première impression, je m'étais vu, sautant sur ce toit à la moindre alerte, mais la difficulté qui m'avait paru inexistante me semblait à présent énorme. Je me mis en tête de me procurer une corde et de l'accrocher à un piton extérieur de façon qu'elle fût déjà en place. Mais des fenêtres qui, plus loin, donnaient également sur ce toit, on pourrait s'en apercevoir. Et, fait plus grave encore, Guégan, en mettant le nez dehors, pouvait se demander ce que cette corde faisait là. Quant à l'ôter et à la remettre sans cesse, c'était une précaution dans le genre de ciel qu'on néglige à la longue. Quand j'eus décidé de l'accrocher quand même, une nouvelle difficulté surgit. Comment me procurer cette corde? Les commerçants s'étaient moqués de moi. Il y avait belle lurette que le dernier mètre de corde avait été vendu. Je m'imaginais alors que j'en trouverais chez des voisins. Mais la pénurie de tout était si grande, les objets les plus hétéroclites avaient acquis une telle valeur que personne ne voulait se séparer de rien. Quoi qu'on demandât, la réponse était invariablement négative. Des ficelles traînaient dans l'atelier, mais même roulées ensemble, elles eussent été trop minces et je me fusse coupé les mains. Quand on passe des journées entières à s'ennuyer, on finit, pour le seul besoin de s'occuper, par faire des choses qu'on s'était dit qu'on ne ferait pas. Je tressais tant bien que mal ma corde et je l'attachais au piton du volet, la dentelle de la fonte de la barre d'appui risquant de se casser comme du verre. Pendant quelques jours, cette simple corde me donna une extraordinaire sensation de sécurité. Rien ne me rendait plus confiant que cette possibilité de fuir d'une façon que personne ne soupçonnait, car qui eût pu supposer que d'un 5e étage, je pouvais m'échapper par la fenêtre? Mais une nouvelle inquiétude ne tarda pas à m'envahir. Une fois sur le toit, était-il possible d'aller plus loin? La nécessité de me rendre compte de la topographie des lieux, de faire en quelque sorte une répétition de ma fuite, m'apparaissait de plus en plus nécessaire. Il ne fallait pas songer à interroger les gens sans prendre des précautions infinies. J'essayais de me lier avec le concierge de l'immeuble voisin. Je ne pus y parvenir, car il n'y avait absolument aucune raison pour que nous échangeions plus de 2 ou 3 paroles de suite. Je songeais sérieusement à descendre un soir par cette corde sur le toit, mais je renonçais très vite à ce projet, de crainte qu'un incident quelconque ne se produisît et que la corde, si elle était suffisamment solide pour me permettre de descendre, n'offrit pas assez de prise pour remonter. Il eût été vraiment ridicule que je me fisse prendre au cours d'un exercice en vue d'une fuite éventuelle, exercice sans aucune utilité immédiate. Le lendemain, il m'a paru cependant qu'il était plus sage de tenter cette expédition. Je me trouvais donc toujours aux prises avec les mêmes hésitations. Dès qu'une précaution ne me semblait pas d'un intérêt urgent, j'hésitais à la prendre. Après, quand il était trop tard, il ne me restait plus qu'à regretter ma pusillanimité. Depuis que j'étais à Paris, j'étais redevenu malgré moi assez semblable à l'homme que j'avais été avant la guerre. J'avais repris certaines habitudes. Autant il m'avait semblé naturel de me mettre à courir au moindre danger quand je me trouvais en Allemagne ou en Belgique, autant cela m'eût semblé anormal rue Gay-Lussac, rue de l'Abbé de l'Épée, rue du Val-de-Grâce, rue d'Enfer-Rochereau. Il fallait donc, si je tenais vraiment à ma peau, que je me fisse violence, que la vie familiale que je venais de retrouver ne me laissât pas perdre de vue que je devais défendre mon existence comme un vulgaire bandit. Un soir sans lune, je me décidai à aller reconnaître le chemin que je pouvais être amené à emprunter. Caché dans quelque ville lointaine, je n'eusse pas hésité à le faire. Pourquoi en eût-il été autrement dans ma ville natale? Vers 11 heures du soir, j'ouvris la fenêtre. La nuit m'effraya quelques secondes, tant le contraste était grand entre cet atelier confortable et ce trou noir où le vent soufflait avec violence. Décidément, quelque chose en moi était cassé. Je n'étais plus l'homme qui s'était évadé d'Allemagne et qui, pendant 23 jours, avait encouragé ses camarades. Malgré toute sa force de caractère, un homme ne saurait rester indéfiniment en état d'alerte. J'avais peur d'être pris pour un vulgaire cambrioleur. Je raisonnais trop. Ce que je me proposais de faire ne m'apparaissait pas tellement indispensable. Mon projet avait quelque chose de théorique. Je sentais que si je m'abandonnais dans cette voie, 1000 autres gestes avaient autant de raisons d'être faits. Je m'efforçais de penser à autre chose afin de retrouver la fraîcheur du bon sens. Était-il censé ou non de descendre la nuit sur ce toit? Était-ce utile? Oui, m'écriai-je brusquement, et sans réfléchir une seconde de plus, j'escaladai la barre d'appui et me fiant uniquement à la force de mes poignets, je me laissai glisser sur le toit. Je me couchai immédiatement à plat ventre, car mes souliers, sur le zinc, avaient fait un bruit que je n'avais pas prévu. J'étais redevenu l'homme courageux que je suis. Je constatai avec une joie immense que j'étais prêt, à présent, à accomplir n'importe quel acte pour me défendre, à quitter, s'il le fallait, à l'instant même et dans l'état où je me trouvais, l'atelier de Guégan. La concierge, dans sa loge d'une propreté méticuleuse, était une de ces femmes tristes dont on dit qu'elles ne s'occupent de personne. Chaque fois que je la rencontrais, elle ne paraissait pas me voir, bien que notre premier contact eût dû la frapper. On aurait pu lui poser des questions à mon sujet, elle n'eût pas su quoi répondre, ce qui valait encore mieux que si elle avait obéi à une consigne. Un nouvel inconvénient ne tarda cependant pas à me préoccuper. J'étais justement trop bien. À mesure que j'apportais des perfectionnements à ma cachette, la difficulté d'y associer Guégan surgissait. Je me créais en quelque sorte une sécurité superposée à celle qu'il me donnait. Pour ne pas le froisser, j'étais obligé de la lui cacher. Mais il s'en apercevait. Je me rendais compte, de plus en plus, que j'agissais d'une manière que moi-même j'eusse trouvée antipathique chez un autre. J'avais l'air de ne pas estimer suffisamment ce qu'il faisait pour moi. Il était bien trop conscient de la gravité de mon cas pour me le reprocher, mais je devinais qu'il ne trouvait pas moins bizarre les initiatives que je prenais chez lui. J'avais trop l'air de dire que quand la vie et la liberté sont en jeu, l'amitié passe au second plan. Et j'avais beau faire, je ne parvenais pas à me débarrasser de cet air, ce qui prouve qu'il ne suffit pas de connaître ses défauts pour réussir à les dissimuler. Il devait pourtant se demander parfois s'il ne se trompait pas, lorsqu'un nouvel incident se produisit qui ne devait plus lui laisser de doute. Une chose devait, selon moi, ne coûter aucun effort à Guégan et accroître ma sécurité dans des proportions considérables. L'atelier était relié à l'appartement du bas par une sonnette. Il s'agissait pour moi d'obtenir de Guégan qu'il se servit de cette sonnette pour m'avertir au cas où des gens suspects viendraient me demander. Je fis plusieurs allusions au service qu'il me rendrait en agissant ainsi. comme il ne semblait pas comprendre ce que j'attendais de lui, je le lui dis finalement. Il accepta tout de suite, mais je remarquai qu'il avait un air drôle. Peu après, en réfléchissant, il m'apparut que cet accord n'était pas au point. Guégan avait eu beau accepter spontanément de me rendre le service que je lui demandais, il n'avait pas eu l'air de comprendre l'importance que j'y attachais. J'avais besoin, pour ma tranquillité, de sentir que je pouvais compter absolument sur lui. Or, ce n'était pas le cas. Je m'étais aperçu d'autre part que je n'avais pas été assez précis, que je n'avais pas tout dit pour ne pas justement l'indisposer. Pour que ce système de sonnerie fût efficace, il fallait aussi que Madame Guégan fût dans la combinaison. Son fils sortait souvent, et il pouvait très bien se faire que ce fût elle qui ouvrit aux visiteurs suspects. Je revins donc à la charge. Guégan me répondait invariablement que c'était entendu, mais je sentais bien qu'il ne pensait à ce que je lui demandais que lorsque je lui en parlais. Et à mesure que le temps passait, je ne sais pourquoi, j'attachais de plus en plus d'importance à ce service. Une semaine plus tôt, je n'y songeais même pas, et voilà qu'à présent il me paraissait indispensable, au point que tous les autres avantages me semblaient sans valeur tant que je n'aurais pas obtenu satisfaction. Enfin, à force d'insister, j'eus le sentiment que je pourrais compter sur Guégan et sa mère. Je constatai alors avec surprise que le simple fait de presser sur un bouton avait pris dans l'esprit de mes hôtes l'importance du plus grand service qu'ils me rendaient, alors qu'à mes yeux il était pour eux insignifiant, d'autant plus que l'occasion de le rendre pouvait même ne jamais se présenter. À la suite de cet incident, je fis trois remarques dont je me proposais de tenir compte à l'avenir. La première, c'est que nous avons toujours tendance à abuser de la gentillesse des gens, et que c'est au moment où nous leur demandons la chose la plus quelconque qu'ils nous montrent brusquement qu'ils en ont assez. La deuxième, c'est que notre intérêt, même quand il ne nuit pas à celui d'autrui, éveille de la mauvaise volonté. La troisième, enfin, celle qu'il est difficile, quand on court des dangers, de conserver une certaine noblesse. Décidément, il venait curieusement à l'esprit de mon entourage les mêmes pensées à mon sujet. Déjà, M. Georget, et c'était un peu la raison pour laquelle j'étais parti, se proposait de me faire rencontrer le fils d'un de ses amis, évadé comme moi. Or, voilà que Guégan, exactement sur le même ton, m'annonça qu'il avait un de ses amis qui s'était évadé d'Allemagne et que ce serait une très bonne chose que nous nous rencontrions. Je lui demandai avec inquiétude s'il avait parlé de moi. « Mais bien sûr, » me répondit-il. Je ne doutais pas que Guégan eût agi dans une bonne intention, mais je ne voulais pas qu'on sût que j'étais un évadé. Je le lui dis. « Mais pourquoi, au contraire ?» Je ne sus que répondre. Guégan ne pouvait comprendre que je tins tant au silence. Si j'avais persisté à cacher mon mérite, à ne pas me servir d'un titre qui, selon lui, m'ouvrait toutes les portes et faisait naître tant de complaisance, il se fût demandé ce que j'avais. J'eus eu l'air de vouloir ne compter que sur lui. Comme il paraissait de plus en plus étonné, je feignis finalement d'être de son avis. Mais après avoir parlé d'autre chose, je refusais sa proposition. Dès que je me trouvais seul, je fus de nouveau harcelé de remords. Je résolus finalement d'aller voir cet ami malgré les dangers que j'apercevais dans cette visite. Au fond, même quand la vie est en jeu, on finit par se lasser de prendre des précautions. On se familiarise avec les risques, on s'expose de plus en plus. C'est comme sous le feu de l'ennemi, on finit par croire qu'on ne sera jamais touché. Au moment de faire cette visite, j'eus une sorte de sursaut d'indépendance. Je me dis « c'est trop bête ». Puisque la seule idée de cette visite m'était si désagréable, pourquoi la faire? Pour pouvoir dire à Guégan, je l'ai faite, mais n'étais-je pas dans une situation où toutes les considérations d'amitié, toutes ces petites faiblesses de la vie quotidienne devaient disparaître? Le soir même, j'annonçais à Guégan que, réflexion faite, j'aimais mieux pour le moment ne voir personne. Que Guégan se froissât m'était tout à fait égal. Je ne songeais qu'à moi, et peu m'importait qu'on se froissât ou non. J'eus l'impression que Guégan pensait, inutile de l'importuner. Il venait de renoncer à son projet avec la facilité des gens qui font des démarches pour les malheureux, quand ils ne savent même pas si ceux-ci suivront leurs conseils. Je me ressaisis, je m'écriai « Tu as raison, j'irai le voir. » Mais le charme était rompu. L'idée de gagner ma vie dans une profession des plus humbles m'était déjà venue. Je m'imaginais que plus bas je me trouverais dans l'échelle sociale, plus je serais à l'abri, moins j'attirerais l'attention. Quand j'avais fait part à Guégan de cette intention, il m'avait regardé avec étonnement. Je ne m'en étais pas moins mis à la recherche d'un ancien camarade de l'Académie suédoise qui se vantait d'avoir exercé tous les métiers. J'étais tellement ahuri par cette vie sédentaire que quand je me trouvais dans le quart de Maison Laffitte, cela me fit un drôle d'effet de voir les voyageurs monter, descendre, se parler, comme si c'était la chose la plus naturelle qui fût. J'étais prêt à pleurer d'attendrissement. Quand donc reviendrait le temps où, moi aussi, je serais comme ces gens? Quand donc aurais-je, comme eux, la faculté de ne plus songer au danger, de vivre, de plaisanter même? Mais je n'avais pas trouvé mon camarade après une journée entière passée à courir d'adresse en adresse. À la fin, épuisé, j'étais rentré. Mais à aucun moment, je n'avais songé à me plaindre. Pendant tout le temps qu'avaient duré mes démarches, je n'avais pour ainsi dire pas pensé à ma situation. Alors que d'ordinaire j'étais si prudent, je n'avais pris aucune précaution, absolument comme si l'honnêteté de mes démarches me mettait à l'abri de tout soupçon. Tout le monde m'avait guidé et renseigné avec complaisance. Cela m'avait paru de bon augure. Je n'avais pas douté qu'il en serait ainsi chaque jour lorsque je travaillerais. Le soir, lorsque je fis part à Guégan de l'heureuse disposition dans laquelle m'avait mis cette journée harassante, je fus frappé qu'il demeura aussi sombre. Ma joie s'évanouit. Il venait de m'apparaître que j'étais encore le jouet d'illusions enfantines, que les hauts et les bas par lesquels je passais n'étaient motivés par rien, que ma situation était toujours aussi tragique. Le lendemain, j'avais pourtant voulu continuer mes recherches, mais le sentiment de sécurité avec lequel je m'étais déplacé la veille avait disparu. Je n'osais interroger personne. Je me sentais suspect à tout le monde. À midi, j'étais rentré sans avoir rien fait, voyant tout en noir. Quelques jours plus tard, Guégan m'annonça, comme s'il avait oublié qu'il m'en avait déjà parlé, qu'il allait recevoir quelques amis à qui il avait raconté mon histoire. Je n'avais naturellement rien à craindre, ses amis étaient tous sûrs. Par la même occasion, je ferai la connaissance du fameux évadé qui désirait me connaître. La perspective de cette petite soirée me fut profondément désagréable. Elle faisait apparaître en pleine lumière ce qui nous séparait, Guégan et moi. Il estimait qu'en une période aussi pénible, je ne pouvais que me réjouir de trouver des sympathies et des appuis. Je faisais, selon lui, partie de la grande famille des Français dressés contre l'envahisseur, où j'étais appelé même à jouer un rôle de premier plan. Il considérait que je me trouvais dans une position évidemment assez dangereuse, mais guère plus que celle des personnes que j'allais rencontrer. Mais moi, je savais que j'étais bien seul. Je n'avais aucune envie de me mêler à des conversations sur l'héroïsme et la guerre. Je n'avais aucune envie d'être présenté à 10 personnes dont l'une pouvait très bien me trouver antipathique et par la suite me nuire. Mais si je me dérobais, je sentais que ce serait très inamical envers Guégan. Il y avait d'ailleurs une impossibilité matérielle, l'atelier étant la seule pièce suffisamment grande pour recevoir. Depuis mon évasion, c'est-à-dire depuis que j'étais en danger d'être fusillé d'un jour à l'autre, mon caractère s'était modifié. J'avais acquis une profonde indifférence pour ce qu'on pouvait penser de moi. Si en agissant d'une façon grossière ou avec ingratitude, je renforçais ma sécurité, je n'avais pas un instant d'hésitation. Les considérations qui jadis m'eussent retenu ne jouaient plus. Mon intérêt passait par-dessus tout. En toutes circonstances, je me considérais un peu comme un homme qui quitte un bateau en train de sombrer. Malgré les efforts que je faisais pour être sociable, je n'arrivais pas à respecter les conventions usuelles dès qu'il m'apparaissait qu'on ne m'était pas dévoué corps et âme. Je réussis pourtant à paraître me réjouir de cette soirée, mais dès que je fus seul, je réfléchis longuement à l'attitude que je devais adopter. C'était surtout le fameux évadé que je redoutais de rencontrer. D'après ce que j'avais cru comprendre, c'était un homme courageux. Il avait fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. Il avait risqué sa vie plusieurs fois. Il avait sauvé un de ses camarades. De retour en France, trait qui plaisait beaucoup, il n'avait pas voulu accepter l'hospitalité d'une femme qu'il avait craint de compromettre doublement, et comme homme, et comme évadé, etc. Tous ces détails eussent dû me le rendre sympathique. Pourtant, il me déplaisait profondément. Quelque chose de conventionnel à mes yeux émanait de ses exploits. Dans sa façon de se cacher, de vivre depuis son évasion, je sentais un certain respect de l'ordre tel que les Allemands l'avaient établi. Je sentais que s'il était repris, les choses ne se passeraient pas comme pour moi. Elles se passeraient un peu comme pour un soldat qui a droit aux honneurs de la guerre. Il s'était évadé en respectant les règles. C'était ce qui plaisait à tout le monde et ce pourquoi on ne craignait pas de se compromettre pour lui. J'avais même l'impression qu'il se trouverait des patriotes, si c'était nécessaire, pour se dénoncer à sa place. Tout se passait dans une atmosphère d'honneur et de légalité dont mon évasion était totalement dépourvue. Et Guégan s'imaginait que cet évadé et moi étions deux frères. Je le voyais déjà, cet évadé, flairant la différence, demandant des précisions apparemment comme un homme de la partie à un collègue, mais en réalité par méfiance, feignant de tout accepter sans vérification. J'allais être obligé de donner le nom du camp, celui des villes que j'avais traversées, peut-être le nom de mes camarades, de mes officiers. Guégan ne manquait pourtant pas de gentillesse, à part ce mouvement d'humeur qui lui avait fait dire que j'avais la manie de la persécution, que j'avais un complexe de persécuté, ce qui m'avait paru vrai sur le moment, mais ce qui m'avait fait m'écrier peu après « Il y a de quoi !» L'amitié, telle qu'on la pratique en temps normal, apparaît bien fragile dans les moments difficiles. Je n'avais rien de précis à reprocher à Guégan. Il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il manquait de cœur. Jusqu'à présent, je n'avais jamais jugé les gens selon leur cœur. C'était secondaire. L'important était qu'ils se conduisissent en amis. Et voilà que tout à coup, je découvrais qu'on pouvait avoir du cœur ou ne pas en avoir. Et Guégan, justement, mon ami Guégan, n'avait pas de cœur. Tous les efforts que j'avais faits pour assurer ma tranquillité avaient donc été inutiles. La corde, la sonnette, la concierge, les voisins, tout serait à recommencer ailleurs, et non seulement ces efforts, mais tout ce que je me proposais de faire, tous les jalons que j'avais posés pour l'avenir. Quand on se trouve dans une situation comme la mienne, on ne se lamente pas longtemps. S'il le faut, on abandonne instantanément les projets les plus compliqués, ceux qu'on a mis des semaines à édifier. On vit dans un cantonnement comme un soldat qu'un ordre peut déplacer à l'instant même. J'avais pris des habitudes. Je me souvenais de cette première soirée où, seul dans l'atelier, oubliant d'où je venais et ce qui m'attendait, je m'étais imaginé que j'avais toujours vécu là. Je m'étais servi des objets que je ne connaissais pas comme s'ils m'appartenaient depuis toujours. Je ne m'étais même pas donné la peine de changer de place les vases, les bibelots. Je n'avais pas songé à mes goûts. D'un seul coup, j'avais adopté tous ceux de Guégan. Je m'étais mis à sa place et j'avais joui, sans arrière-pensée, de ce qu'en d'autres temps j'eusse avant tout transformé et peut-être méprisé. J'avais tout admiré autour de moi comme si je ne devais jamais quitter cet atelier. Mais alors qu'en temps normal, j'eusse souffert de perdre ainsi brusquement ce qui m'entourait, aujourd'hui, je m'en serais séparé sur le champ sans regret.